Alors ce matin, on continue notre découverte, notre redécouverte peut-être, du livre de Néhémie. Ce livre qui raconte une partie, une portion de la vie de l'histoire d'Israël, il y a déjà maintenant plus de 2500 ans. C'est une histoire autour d'un homme, Néhémie. Un homme qui fait partie de ce peuple qui est exilé, qui est déporté et dispersé dans un empire perse. Mais voilà maintenant que 90 ans que Dieu a suscité, a œuvré et intervenu pour que certains puissent revenir à Jérusalem. Alors vous voyez la distance, c'est à peu près à plus de 1000 kilomètres, à vol d'oiseau. Et à 1000 kilomètres de Jérusalem, Dieu intervient auprès de Néhémie, et c'est ce qu'on avait vu il y a 15 jours. Un haut fonctionnaire de l'État, un homme important, un homme avec des responsabilités qui est au contact du roi, de l'empereur de ce grand empire perse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Néhémie a reçu des nouvelles de ce qui se passe à Jérusalem. Et on avait vu, au chapitre 1, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Un peuple qui se retrouvait à Jérusalem était abattu, était dans le désespoir. Et on lui faisait le topo que la ville était en ruine. Et on avait vu que c'était des nouvelles qui ont impacté Néhémie, qui ont touché son cœur, au plus profond de son cœur. Et on avait découvert que c'était un homme de prière. Il s'était mis à genoux. Il était tellement touché par ce constat, par ces nouvelles qu'il a reçues, qu'il s'est mis à genoux, qu'il a prié. Et on avait vu que dans sa prière, il avait exprimé des convictions de son Dieu qui était tellement fort, tellement extraordinaire, des convictions tellement fermes en Dieu, alors que ça ne concernait pas spécifiquement sa vie, il était bien. Mais c'était son peuple, il était meurtri par ce que ses frères et sœurs étaient en train de vivre. Et là, on est au chapitre 2. Alors je vous propose de prendre ce chapitre 2 dans les Bibles blanches, c'est page 333. Chapitre 2, Néhémie, chapitre 2. Au mois de Nissan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et je lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé : pourquoi as-tu mauvaise mine ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'une peine de cœur. Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu : que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu ? Le roi m'a demandé : que voudrais-tu ? J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi : si tu le juges bon et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda, vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. Le roi et la reine assise à ses côtés, m'ont alors demandé : combien de temps ton voyage durerait-il et quand serais-tu de retour ? Ainsi le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai donné un délai. Puis j'ai dit au roi : si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant l'instruction au gouverneur de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Arrivé vers les gouverneurs de la région située à l'ouest de l'Euphrate, je leur ai remis les lettres du roi. Celui-ci m'avait fourni une escorte de chefs de l'armée et de cavaliers. Sambala le Horonite et Tobija le fonctionnaire ammonite ont appris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours. Puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans encore avoir dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'examinais la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi, sans trouver de passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée, sans cesser d'examiner la muraille. Puis je suis rentré par la porte de la vallée et j'ai ainsi été de retour. Les magistrats ignoraient que j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai alors dit, « Vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. » Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, « Levons-nous et mettons-nous au travail. » Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Sambala le Héronite, Tobija le fonctionnaire ammonite et Geshem l'arabe ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, que faites-vous donc? Seriez-vous donc en train de vous révolter contre le roi? Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Jusqu'ici. Dieu est tout puissant. Il peut tout faire. Il peut faire tout ce qu'il a envie de faire. Rien ne lui est impossible. Il a tout pouvoir sur toute chose, à tout moment et de toute manière. Est-ce qu'on le réalise? Alors le mot qu'on utilise pour parler de cet attribut, de cette toute-puissance, c'est l'omnipotence de Dieu. Dieu est omnipotent. Alors c'est, je sais que c'est un peu technique, mais Dieu est tout-puissant. Il peut tout. Rien ni personne ne peut résister à sa direction. Un autre mot qu'on trouve aussi pour parler de Dieu et dans cette même idée, c'est la souveraineté de Dieu. La volonté et le pouvoir absolu de Dieu qu'il a sur l'histoire. Tout ce qu'il a conçu, tout ce qu'il a voulu, tout ce qu'il a décidé s'accomplira. Job, il a parlé de cette puissance de Dieu en Job 42. « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. » Dieu est tout-puissant. Alors quand on pose cette question, « Mais si Dieu est tout-puissant, qu'est-ce qu'on fait là ? Si Dieu peut tout ? Si personne ne peut résister à sa direction, à son action, à quoi ça sert de prier ? De servir ? À quoi ça sert si Dieu peut tout, qu'il ait besoin de nos offrandes ? De s'engager. De toute façon, il va agir, il va faire ce qu'il a décidé de faire. On ne peut pas s'y opposer. Voyez un peu le débat, Dieu Tout-Puissant et nous. Souveraineté de Dieu et responsabilité des hommes. Et c'est vrai, dans l'histoire de l'homme, on se questionne sur ces sujets, on va dire théologiques. Il y a des débats, mais cette conviction, elle a des incidences toutes concrètes sur nos quotidiens. Alors si on voit les extrêmes, si Dieu fait tout et que cela va aboutir de toute façon, ça ne sert à rien de bouger, ça c'est l'extrême. Si Dieu veut qu'on le trouve, ça ne sert à rien d'aller lui parler. Il va le faire. Dieu sait ce qui va arriver. Ça sert à quoi que tu veux prier? Dieu sait, il va le faire. Ce qu'il a décidé. Et l'autre extrême, on a les activistes. Si on veut que ça bouge, il faut le faire. Si on veut que ça bouge en l'église... Vous avez peut-être entendu ça de ma part, il faut qu'on prie. On s'encourage à s'investir, à réfléchir, à mettre en œuvre. On doit clarifier le projet de l'Église. Il faut se former pour être pertinent, pour témoigner avec clarté à notre génération. Il faut qu'on revoie notre fonctionnement, ça ne va plus. Si Dieu doit agir, ben il faut réfléchir à comment on est structuré, à comment on fonctionne, à comment on interagit les uns les autres. Il faut qu'on revoie notre charte graphique, ça ne va plus. Il faut revoir notre manière d'accueillir, de servir notre prochain. Il faut qu'on prie. Très bonne question, hein. Ce chapitre 2 donne des réponses. Vous l'avez vu, c'est un récit détaillé, c'est du concret, on arrive à s'imaginer. Et je pense que si on pose cette question, est-ce que Dieu peut tout faire et quelle est ma part? Si on la pose à Néhémie, est-ce que Dieu est souverain? Est-ce que c'est Dieu qui fait bouger les choses? Ou est-ce que c'est nous qui devons bouger? C'est oui et oui. Oui pour les deux. Regardez simplement avec moi le dernier verset, le verset 20. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Souveraineté de Dieu, le Dieu du ciel. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Oui et oui. Oui, nous avons les deux. Et c'est vrai qu'on va voir dans cet épisode que Néhémie est un leader. Il passe à l'action. Il a du charisme. Mais il n'y a aucun conflit entre la souveraineté de Dieu, la toute-puissance de Dieu et notre responsabilité de nous engager, d'y aller. C'est complémentaire. Et la foi de Néhémie, elle est clairement en action. Elle le pousse à prendre des risques. Et vous l'avez vu, ce n'est pas sur un coup de tête. On avait lu au chapitre 1 qu'il avait prié pendant 3, 4 mois, qu'il était touché, mais là, il s'est adressé à Dieu. C'était un homme de prière. Et dans ce chapitre-là, c'est plutôt maintenant un homme d'action. Celui qui va, qui entreprend, qui agit. Et c'est le même homme. Néhémie, un homme d'action. Et la vérité que le texte veut nous enseigner ce matin, c'est parce que Dieu est souverain que nous, nous agissons. C'est parce que Dieu est au contrôle que nous sommes encouragés à agir, à travailler. Dieu est au centre de ce texte. C'est la source de sa mobilisation à s'engager et à encourager le peuple. Néhémie peut encourager le peuple parce qu'il sait que Dieu est au-dessus, que Dieu est souverain et que Dieu agit. Nous avons les deux. Néhémie, un leader qui passe à l'action. Il a conscience de la souveraineté de Dieu et il se met en marche. Et dans le Nouveau Testament, on a la même chose avec Jacques qui dit « La foi sans les œuvres, elle est vaine. » Paul qui va dire « Vous avez été sauvés par grâce, mais ces mêmes grâces vous équipent pour que vous entriez dans les œuvres qu'il a préparées pour vous. » Là, c'est par exemple Éphésiens, Philippiens, on voit cela. C'est une affirmation qui est tout sauf théorique. C'est vrai, on pourrait partir en débat, est-ce que Dieu est tout puissant? Est-ce qu'il a besoin de nous? Est-ce que notre prière, ça change à quelque chose? Là, c'est pratique, c'est déterminant de pouvoir nous dire, mais Dieu, il est souverain et il m'appelle à servir et à agir. Et d'ailleurs, c'est nos convictions se voient lorsque nos fondements vacillent, lorsque les difficultés sont là. Et Néhémie, il est face à deux situations. Néhémie, dans la première partie, il est face au roi. Et ce n'est pas n'importe lequel des rois. C'est un opposant au peuple de juif. Ce roi qui a un droit de vie et de mort. Et il est connu dans l'histoire pour être quelqu'un de dur. Mais Néhémie fait face aussi à une autre difficulté. C'est à la ville, à la destruction de cette ville qui est ravagée, les décombres, avec un peuple qui est découragé. On l'avait lu il y a 15 jours. Deux situations extrêmes. Mais malgré ces deux situations extrêmes, Dieu est souverain et Néhémie va faire face au roi. Je vous propose de regarder avec moi. Et ce n'est pas n'importe lequel des rois. Artaxerxès, l'homme fort du monde de l'époque, roi de l'Empire perse, qui domine l'ensemble du Proche-Orient, qui surveillait la moindre agitation de rébellion de la part de tous ces autres rois qui étaient dans son territoire. Relisons le verset 1 et le verset 2. La 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et je lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé, pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ça ne peut être qu'une peine de cœur. Néhémie, ça fait 3-4 mois qu'il prie, qu'il a été touché par cette situation, qu'il pleure, qu'il jeûne sur la situation de la ville de ses ancêtres. Et cela commence à se voir. On l'avait vu, c'est un haut fonctionnaire, il a accès au roi, et le roi le voit. Néhémie vit parmi les Mèdes et les Perses, un peuple qui n'est pas réputé pour sa compassion, bien au contraire. Et regardez, fin de verset 2, saisi d'une très grande frayeur. Néhémie, quand le roi le voit, Néhémie, il a peur, il a les pétoches, saisi d'une vraie frayeur. Et le roi s'adresse à lui. Alors le texte ne nous dit pas s'ils avaient l'habitude de parler, d'échanger ensemble, on ne le sait pas. Même s'il était une personne importante dans le personnel. Mais Néhémie, c'est quoi cette situation que tu traverses? T'es pas bien? Artaxerxès n'est pas simplement le roi le plus puissant. Il faut savoir que c'est un roi qui, déjà un peu avant, et on le voit dans Esdras 4, on va pas le prendre, quelques textes avant, c'est un roi qui s'est déjà opposé avec fermeté aux tentatives du peuple d'Israël de bâtir le temple et la ville. Et il avait écrit un décret avec une interdiction de bâtir. Il a fait arrêter sur le champ les travaux qui avaient été entrepris quelques années avant. Donc c'est un roi, Artaxerxès, qui s'est déclaré ouvertement contre le projet de rebâtir Jérusalem. Et Néhémie le sait. Néhémie le sait. Il est à la cour du roi. Et on voit que Néhémie, ça ne l'arrête pas, il met les deux pieds dans le plat. Il prend son courage. Mais il le prend avec sagesse. Il ne nomme pas la ville. Il ne dit pas Jérusalem. Regardez versets 3 et 4. Je lui ai répondu. Que le roi vive toujours, comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu ? Le roi m'a demandé, que voudrais-tu ? Que voudrais-tu ? Dans cette question, on n'a pas le ton non plus, que voudrais-tu ? Est-ce que Néhémie peut anticiper la réaction du roi ? Est-ce que c'est que voudrais-tu à la façon service client ? Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Est-ce que c'est sur ce ton-là ou est-ce que c'est « qu'est-ce que tu veux faire ? Que veux-tu ? Tu cherches les embrouilles ? Tu sais bien que... » Imaginez-vous dans la peau de Néhémie. Et c'est là qu'on voit la fin du verset 4 et c'est un tournant sous pression, sous le fil du rasoir, entre la vie et la mort. J'ai alors prié le Dieu du ciel. Point. J'ai prié le Dieu du ciel. Comme au chapitre 1. Néhémie n'agit pas tout de suite. Il sait devant qui il se tient, le roi, mais il sait qu'il a un roi au-dessus. Néhémie ose. Néhémie entreprend parce qu'il est convaincu de la puissance de Dieu, de la souveraineté de Dieu, le Dieu du ciel. Il prie et il s'attend à l'intervention du Dieu tout-puissant. Et quand vous regardez la suite, il va non seulement demander à ce que Dieu intervienne, mais il va être la réponse. La réponse à sa prière, c'est lui. Il est prêt à se lever. Il se mouille. Que voudrais-tu ? J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi. Si tu le juges bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda, vers la ville qui abrite le tombeau de mes ancêtres, pour que je la reconstruise. Ah, il est cash, hein. J'ai envie de reconstruire la ville, là. Et je veux y aller. Dieu a mis quelque chose au cœur de Néhémie. Il veut devenir la réponse à sa prière. Quand Dieu nous met quelque chose à cœur sur une situation, est-ce que nous demandons à Dieu qu'on soit la réponse, peut-être ? Vous rappelez-vous, dans le chapitre 1, Néhémie avait prié pour que la compassion du roi puisse être là, puis qu'il puisse toucher la compassion. Que Dieu puisse toucher la compassion de ce roi. Et là, tout bascule. Au verset 6, les questions s'enchaînent du roi. Quand ? Comment ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Imaginez-vous comme ça, la pression devait retomber. Le roi et la reine assises à ses côtés m'ont alors demandé « Combien de temps ton voyage durera-t-il ? Et quand serais-tu de retour ?» Ainsi, le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai donné un délai. Waouh ! Fascinant. On voit que Néhémie l'a préparé sa réponse. Méticuleusement. Il a un projet. C'est assez clair dans sa tête. C'est pas parce qu'il a prié pendant des mois qu'il s'est passé de réfléchir concrètement et de mettre concrètement des choses en place. Et Dieu lui a révélé des choses. C'est fascinant. Poursuivons versets 7 et 8. Puis j'ai dit au roi, si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, et qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que je vais occuper. Il a du culot. Il sait ce qu'il demande. Il est clair. Ce roi étranger, mes amis, qui était contre, va devenir le mécène. C'est lui qui va subvenir aux besoins de cette reconstruction. lui qui ne souhaitait pas reconstruire. Il va pourvoir en matériel, en lettres de recommandation, en logement de fonction. La foi de Néhémie, elle est extraordinaire, mes amis. Il est visionnaire. Il s'est dit, si déjà je me présente devant le roi, bon, je lui demande tout, le paquet, complet. C'est important pour lui. C'est tellement important pour lui, cette reconstruction. Et nous ? Tant chrétien, combien on a de rêves, on espère des choses, on revendique des initiatives, on a des projets, on a des préoccupations. Mais on n'a aucune stratégie derrière. On n'a pas pris le temps de prier. On n'a pas pris le temps de regarder qu'est-ce que Dieu veut faire, qu'est-ce que Dieu a dit d'ailleurs par rapport à cela. Sans prendre le temps de regarder ce que Dieu a dit de cette situation. Parfois, je me reconnais. On a envie d'agir, mais on ne se prend pas le temps de se dire, ben, est-ce que je me place dans la prière, à interroger Dieu, à chercher ce que Dieu a dit de lui, de ce qu'il allait faire, de sa souveraineté. Regardez comment Jésus et Paul ont agi, ils ont agi comme ça. Ils se sont appuyés sur les promesses de Dieu et ils ont agi. Paul, le nombre de fois où il a rappelé, voilà le Dieu qu'on a. Et c'est parce qu'on a ce Dieu-là que je peux agir et je peux faire ces choses et je peux aller au bout de ces choses. Dieu a les moyens. Parce que Dieu est souverain, Néhémie l'a agi. C'est un moment charnière. Sa propre vie était dans la balance. Et le voilà qui va être muté, qui va partir pour un long voyage, 1300 kilomètres, vers une ville qu'il n'a probablement jamais visitée. Enfin, c'est sûr. Et Néhémie repart de là. Avec cette permission du roi, avec des moyens, avec une sécurité. Et il arrive même avec un convoi royal. Tout cela relève du miracle. Cela relève du miracle. C'est incroyable. C'est spectaculaire. Dieu a renversé le cœur d'un roi, le roi tout-puissant. Imaginez-vous qu'il vous fasse ce rapport dans une lettre de nouvelles. Ou imaginez qu'on ait reçu la lettre de nouvelles avant qu'il rencontre le roi. Écoutez, je vais rencontrer le roi. Voilà toutes mes... On s'est dit, mais il est fou. Et peut-être après, combien il aurait été facile de remettre cette réussite, parce que c'est une réussite, dans ce qu'il a fait. Et mes amis, j'ai réussi parce que j'ai prié. J'ai mouillé ma chemise, moi, les gars. J'ai eu du cran. Mon plan, il était au point. Le roi m'a été favorable parce que je le connaissais. Je l'ai servi pendant des années. J'étais apprécié de lui. Non, pas tout ça. Regardez le verset 8. Le roi m'a accordé tout cela. Pourquoi ? Car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Il reconnaît qu'en fait, Dieu est souverain et que c'est Dieu qui agit. Toute la gloire revient à Dieu. La bonne main de Dieu est sur moi. Waouh ! Il est le moyen que Dieu utilise. Il remet les pendules à l'heure. Oui, Néhémie, un homme qui agit, mais il reconnaît, ben, si je suis là, si j'agis, c'est parce que Dieu m'utilise. Dieu est souverain. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Et malgré l'intervention de Dieu, de façon toute puissance parmi le roi de ce monde, il y a déjà de l'opposition. Verset 10, hein. Sambala le Héronite et Tobija le fonctionnaire ammonite ont appris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. Vous l'avez vu ? Quand Dieu agit, quand Dieu est à l'œuvre et quand il y a des choses qui sont faites pour Dieu, il y a l'opposition. Mais pour Néhémie, ça ne va pas être le problème pour l'instant. On va les retrouver plus tard. Et là, on arrive à la deuxième portion du texte. Néhémie fait face à la ville. Et quel état cette ville ? Néhémie découvre la situation terrible de cette ville. Et on le voit dans la description qu'il nous donne. Il comprend l'étendue de la destruction. C'est un peu comme si, je ne sais pas si vous avez vu cette image, pour ceux qui ont peut-être regardé la Deuxième Guerre mondiale, ça c'est la splendide ville de Dresde, en Allemagne, surnommée la Florence de l'Elbe. Elle refermait des trésors architecturaux et elle a été détruite sous un bombardement des Alliés. Les historiens étaient unanimes sur la beauté de cette ville. Il n'en reste rien. Alep, hein, aujourd'hui, actuellement, c'est pareil. Une belle ville avec des trésors antiques qui a été détruite par l'État islamique. Il y a un avant et un après. Des villes magnifiques ont été détruites. Et c'est ce qu'on a ici. Jérusalem était reconnue comme une ville extraordinaire, très belle. Et Néhémie fait face à ce spectacle, vous imaginez, détruit. Regardez verset 13. Sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'examinais la muraille avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi, sans trouver de passage pour ma monture. Vous savez, quand le texte dit source et bassin du roi, c'était l'endroit magnifique du palais de David. Pour lui, ça lui fait tilt. La grande Jérusalem est saccagée. Cette ville dont on lui a parlé tant et tant parlé, de la grandeur du temps de David, saccagée comme un champ de ruines. Il considère vraiment le problème de près. Ça le touche. Verset 15. « Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée sans cesser d'examiner la muraille. Puis je suis rentré par la porte de la vallée et j'ai ainsi été de retour. » Néhémie considère le problème de près. Il voit cette ville ravagée. Je ne sais pas si vous imaginez la nuit qu'il est en train de passer. Cette ville dont il a tant entendu parler, qui faisait la fierté du passé de son peuple, de l'histoire de son peuple. C'est là que se sont passés les récits de David. Et ça touche, hein, quand on visite des lieux. Peut-être certains, je sais que certains étaient en Israël et quand ils ont vu historiquement un peu des endroits où Jésus était et tout, ça les touche, ça les prend en tripes. Alors vous imaginez dans la peau de Néhémie d'aller dans un endroit où ses racines y sont, où ses grands-parents ont été. Quelle longue nuit ça devait être. Une nuit de doute, une nuit de découragement. Le chantier est énorme, c'est impossible, cette muraille, 6, 8 kilomètres. Plusieurs mètres d'épaisseur, un projet impressionnant. Vous avez dû passer aussi des nuits comme ça parfois, non? Des nuits remplies de doutes. Vous faites le point sur votre vie. Ce sentiment de ne pas arriver. Ce sentiment de réaliser que c'est beaucoup plus grave que ce que vous pensiez. Le problème qui est face à vous est terrible. Vos pieds se dérobent sous vos pieds. On ne va pas s'en sortir. Ça, c'est les sentiments qui étaient chez Néhémie. Moi, j'imagine très bien. Il, avec sa monture, il passe et il voit cette ruine. Il a le cœur, les uns. On découvre qu'il n'en a pas parlé, hein. Il a été sage. Il a pris son temps. Il a vu la lourdeur du chantier, la gravité. Il n'est pas arrivé tout fringant. Hey, les gars, je viens. Vous avez vu les chariots? Je viens rempli, on reconstruit. Il n'est pas venu comme ça. Il prend le temps de comprendre le problème. Parce que le peuple, il le sait, le peuple est abattu. Le peuple a perdu confiance. Lui, l'homme d'action, il n'a rien fait au début. Il a attendu un peu 3 jours. Hein. C'est le verset 11. Il ne publie pas haut et fort le projet qu'il a sur le cœur. Un homme qui a prié méticuleusement, il a prié longtemps, avec soin pour ce projet. Il a réfléchi. Il a obtenu le soutien logistique de l'Empire perse. Et une fois sur place, il a fait preuve de discrétion. Il a pris le temps de regarder, de sonder, de parler à Dieu, je pense. Il a vu le problème de près de lui-même. Il ne veut pas se griller auprès du peuple, il se renseigne d'abord. Quand on est dans des problèmes ou quand on voit des problèmes, c'est facile d'imaginer, c'est facile de se dire d'être dans un discours négatif, dans une situation, quand il y a un problème dans un groupe de personnes, dans une église, sur la société. On a facilement ce discours négatif tout de suite haut et fort. Mais est-ce qu'on s'est pris le temps d'analyser la situation tranquillement, à tête reposée devant Dieu? Dans la société, on le fait. Hein. Si vous êtes de gauche, vous critiquez tout de suite ceux de droite. Et si vous êtes de droite, vous critiquez. Enfin, et si vous êtes entre les deux, vous ne savez plus. Une fois là, une fois là. Et Néhémie va se confronter à la situation. Il va voir de près. Il va seul, la nuit. Il se fait un avis. Et vous savez, une muraille, c'est important pour un peuple. C'est la protection. C'est la fierté de la ville. Et c'est pour ça qu'il peut annoncer, il va faire cet appel vibrant, hein, du verset 17. Je leur ai dit alors, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Il ne vend pas du rêve, il est réaliste. Il est profondément réaliste. Il les cache. Vous voyez. Il ne minimise pas. Il n'est pas en train de dire, c'est pas très grave les amis, vous avez vu les moyens avec lesquels je viens. Il dit, vous avez vu la situation? Et il s'identifie. Il s'identifie, c'est grave cette situation-là. C'est à la suite du verset 17. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le dénoseur. Dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine. Il s'identifie. Le problème de cette ville, c'est son problème. Il met les mains dans la boue. Néhémie, qui vient d'une citadelle extraordinaire, d'une forteresse du centre du monde, qui était beau à voir, qui était reconnu comme splendide, et quand on voit les traces archéologiques, oui, et il arrive dans un endroit de ruines et de cendres, il s'identifie à cette ville qui est dans le des astres. C'est ça le défi, mes amis. On peut voir les problèmes, mais est-ce qu'on va s'identifier? Est-ce qu'on va s'approcher? Est-ce qu'on va dire tes problèmes sont les miens? Je vais être solidaire. Facile à dire. Que fait-il ensuite? Est-ce qu'il dit regardez ce que j'ai fait, regardez avec ce que je viens? Non. Il est en train de sensibiliser, je l'ai dit, hein, fin de verset 8, nous ne serons plus dans le déshonneur. Il parle du déshonneur, ça fait tilt avec le chapitre 1. Le problème que Néhémie voit, c'est le même que dans le chapitre 1, c'est l'honneur de Dieu. Ce n'est pas juste un projet de construction. Cette ville qui a la mission de proclamer aux autres que Dieu, le nom de Dieu est bafoué. Cette ville que Dieu avait choisie pour être son identité, sa gloire, est détruite. Il est convaincu de la souveraineté de Dieu et il rappelle cette responsabilité du peuple. Venez, reconstruisons. C'est un message rempli d'espérance. Venez, reconstruisons parce qu'on a le déshonneur et sur cette ville, c'est pas normal. On n'est pas juste spectateur de cette désolation. On n'est pas juste des victimes de ce qui vous tombe dessus, mais agissez. Parce qu'on a un Dieu souverain qui a prévu et qui l'a dit, vous revenez à moi et je vous rebâtirai votre ville et je vous ramènerai chez vous. Parce que Dieu est souverain. Et là, il faut avoir en tête, pour dire ça, venez reconstruisons, il faut avoir en tête que Dieu est souverain, que Dieu est au contrôle, que Dieu un jour a dit cela. C'est pas parce que Dieu est souverain qu'il ne faut rien faire. C'est pas parce que c'est Dieu qui a puni le peuple d'Israël qu'il ne faut pas réécrire l'histoire. Et c'est à ce moment-là, simplement, qu'il rappelle « Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et je leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. » C'est à ce moment-là, quand il a parlé d'abord du déshonneur de Dieu, qu'il rappelle son expérience, son cheminement, de ce qu'il a vécu avec Dieu. Les bontés de Dieu sont encore plus grandes. Les bontés, la bonté de Dieu, c'est grand, c'est extraordinaire. Il a pris soin de moi, il m'a dirigé. Alors j'imagine très bien qu'il a dû raconter tout ce qu'il a vécu, combien il a dû flipper devant le roi, combien Dieu il avait ouvert toutes les portes. Mes amis, si on comprend que la grâce de Dieu, que la bonté de Dieu est encore plus grande que sa fidélité, est encore plus grande que mes soucis, que mes difficultés, que mes échecs, que mes souvenirs. Rappelez-vous la phrase d'il y a 15 jours. Nos soucis sont grands parce qu'on a un Dieu petit. Mais si on a un Dieu qui est grand, nos soucis vont... Vous savez, les portes détruites, calcinées, les murs cassés, c'est pas juste parce que voilà, il y a eu un ennemi qui était plus fort. C'est l'épreuve que Dieu a jugé le péché. Vous étiez rebelle à moi. Rebelle à moi. Mais Néhémie ne met pas le poids sur la culpabilité. Et vous, les gars, vous êtes là depuis quelques années et vous avez vu l'état de votre ville. Pourquoi vous n'êtes pas allé à l'action? Non, j'ai vu la bonne main de Dieu. J'ai vu que Dieu, ce que Dieu fait est extraordinaire et qu'on peut l'écouter, on peut regarder à lui. Il a répondu à mes prières. Je viens avec le financement du roi, c'est possible. La bonté de Dieu nous motive. La grâce de Dieu doit nous motiver, doit nous aider à avancer face aux défis. Et là, c'est le deuxième miracle de ce chapitre, mes amis. Le peuple, en écoutant Néhémie, n'a pas dit « Néhémie, hey, tu te rends compte, nous, on est là depuis longtemps. Toi, tu viens tout fringuer, t'es un grand... Tu connais rien à la situation locale avec les chefs, les problèmes des tribus. Toi, tu arrives de là-bas, tu comprends pas. D'ailleurs, t'es pas un vrai juif. T'es un peu mélangé, mi-juif, mi-père, tu travailles pour eux. Non, ils ont pas dit ça. Ils ont dit, et c'est ça le miracle, verset 18. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Waouh ! Dieu, il a agi dans le cœur du peuple. Quand on sait comment le peuple est parfois rebelle, dur de la feuille, quand on se connaît, que quelqu'un nous dit « faut faire ça, levons-nous ». Non, ils se sont levés. C'est l'œuvre de Dieu. Dieu a disposé le cœur de ce peuple. De la même façon qu'il a disposé le cœur du roi, il a disposé le cœur de ce peuple à réagir positivement au projet. Et ça doit nous aider, mes amis, à se dire que la bonté de Dieu, elle est là. Oui, c'est vrai, on a des soucis, on a des difficultés, il y a des choses qui ne vont pas. Mais la grâce de Dieu est là pour renverser les situations, pour qu'on puisse avancer. C'est ça la grâce. Dieu agit dans son peuple, Dieu agit par son peuple, Dieu agit par les uns et les autres. C'est son église locale de regarder à la bonté de Dieu, à la toute-puissance de Dieu qui est capable d'intervenir dans les cœurs. Et malgré cela, il y a de l'opposition. Vous l'avez de nouveau vu, hein, 19-20, l'opposition. On les accuse de vouloir troubler l'ordre public. Malgré ces premiers ennuis, ces hommes, Sambala, Tobija, Geshem, qu'on va retrouver. Néhémie, il est droit. Il est droit dans ses baskets. Il sait en qui il croit. C'est le verset 20 qu'on avait lu en introduction, hein. Je leur ai dit cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Ça ne repose pas sur nous. Mais nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Néhémie donne le change. Il rappelle la vérité sur Dieu. Dieu est souverain, c'est lui qui agit. Néhémie rappelle la vérité sur son peuple. Nous, on est ses serviteurs et on va se lever. Et il rappelle la vérité sur les opposants. Vous n'avez aucun droit de cité. Vous n'avez aucun droit dans l'affaire. Dieu, il est souverain, Dieu, il est au-dessus. Vous pouvez peut-être nous enlever la vie. Mais on a un Dieu d'éternité. Rien ne s'oppose, mes amis, à la souveraineté de Dieu. Vous avez vu, verset 8. Car le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu, la bonne main de Dieu est sur moi. Verset 18. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi. Et verset 20, c'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Néhémie reconnaît la souveraineté de Dieu dans ce qu'il est en train de vivre. Dieu est à l'œuvre, il est souverain, et c'est le fil rouge de ce chapitre, et c'est le fil rouge de Néhémie d'ailleurs. Dieu est à l'œuvre. Et c'est pour cela que Néhémie se met au travail. Parce que Dieu est souverain, Dieu agit. Ça, c'est la vraie foi. Il se met en route, il a fait preuve de sagesse, il a élaboré des plans. Est-ce qu'il a élaboré des plans parce que Dieu n'est pas au contrôle? Est-ce qu'il a prié parce que Dieu, il n'entend pas? Non, parce qu'il sait que Dieu est là et qu'il l'écoute et que Dieu est souverain. Quel récit, mes amis! Néhémie se lève, il encourage son peuple et le peuple se met en mouvement et va clairement reconstruire. Mes amis, à combien plus forte raison devons-nous croire ce que Néhémie a cru? Nous pouvons nous appuyer sur l'action de Dieu, sur la souveraineté de Dieu, sur sa toute-puissance. Dieu, il agit. Sur ce que Dieu a promis de faire, de ce qu'il a déjà fait. Qu'est-ce qu'il a promis, par exemple? Il a promis de bâtir son église. Même si on traverse des difficultés en tant qu'église locale, on peut se dire, mais en fait, Dieu, il a promis de bâtir. Donc, on y va. Dieu, il a promis de transformer les vies, les unes après les autres, de nous arracher aux ténèbres et de nous mettre à la lumière. On peut se dire, on est face à des gens qui sont parfois durs avec nous. Mais Dieu a dit qu'il allait toucher les cœurs, que Dieu était le Tout-Puissant, capable de renverser les raisonnements humains. Ça, c'est le Dieu qu'on croit. Dieu, il a dit que je serai avec vous tous les jours. Dieu a promis d'être à notre secours, d'être là dans la détresse. Il a promis d'intervenir. Il a dit qu'il se préparait un peuple. Il a dit qu'il prépare un peuple de toutes les nations. Donc Dieu est à l'œuvre dans tous les peuples. Aujourd'hui, même si dans des pays, il y a l'oppression, Dieu, il agit pour célébrer sa gloire. Comment il va le faire? Par son œuvre de grâce. Au travers de son Fils, dans la prière, par le courage, par le moyen et l'entreprise de nous, frères et sœurs. Alors que Jésus-Christ, que Dieu nous aide à voir parfois les brèches, les choses qu'on n'a pas bien comprises, de nos problèmes, et que nous puissions regarder à lui, qui est souverain, que nous puissions regarder à la croix, où il a tout rétabli. C'est à la croix que sont placés nos vrais problèmes. Dieu nous a fait la grâce, et on l'a proclamé de façon assez forte, de le connaître. C'est son œuvre. C'est son œuvre souveraine. Il nous a racheté Éphésiens. Je sais que les groupes de quartier ont lu Éphésiens 1. Et son œuvre de grâce dans nos vies a commencé avant la création. Est-ce que ça ne nous rassure pas? C'est avec cette même grâce qu'il nous encourage à nous mettre à l'ouvrage, à entrer dans les œuvres qu'il a préparées pour nous. Waouh, je peux faire un pas après l'autre. C'est avec cette même grâce qu'il nous encourage à servir les uns et les autres. À servir le Seigneur dans nos mariages, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos relations. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain et que Dieu est à l'œuvre. Qu'il a tout pouvoir. Et qu'il nous tient fermement dans sa main pour toujours. Alors soyons comme des Néhémies, agissons. Seigneur, merci simplement pour ce texte qui me parle d'un homme. Oui, mais qui me parle d'un homme qui a compris qui tu étais.